Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com.
Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% Cinéma Montréal, l'épisode 91. Mon nom est Paul Landriau et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
On est content que le printemps soit arrivé, je pense. Ça fait du bien.
Est-ce qu'il est vraiment arrivé, en fait? Parce que c'est comme des espèces de tempêtes qui durent une journée puis qui disparaissent, là. On le sait plus. On le sait plus. Moi, je suis inquiet, là.
On le sait plus. Mais avec l'arrivée du mois d'avril, c'est aussi l'arrivée du nouveau dépliant de la Cinémathèque pour avril et mai.
Ouais.
Donc, comme d'habitude, hein, y a toujours plein de belles perles là-dedans et on vous encourage à aller voir toute la programmation au cinémathèque.qc.ca. Mm-hmm. On va déjà peut-être vous diriger vers quelques bons films qui jouent. Déjà, moi, je vois le 30 avril, c'est la journée Sergio Leone pour souligner en fait le 25e anniversaire de sa mort.
Ouais.
Ils vont entre autres projeter Il était une fois en Amérique, qui est vraiment là, magistral. Je l'avais pas vu, hein. Je l'ai vu l'année passée, peut-être 6 mois.
Ok, tu l'as. C'est fou, hein, ce film-là. Je trouve que
c'est vraiment fou. Ça ressemble beaucoup à Godfather 2, en fait, là, dans le scope, là, l'ambition. Puis j'ai adoré ça, ce film-là. Alors qu'il est beaucoup connu pour ses westerns.
Ouais, mais... c'est ça, mais il est plus politisé. Il y a comme un contexte socio-historique qui va plus loin que dans ses films, que dans sa trilogie de l'homme sans nom, en fait. Ouais. C'est sûr que oui, d'un point de vue plastique, style, il y a quelque chose d'encore plus peut-être poussé puis maniéré dans The Good, The Bad and The Ugly. Mais moi, personnellement, je préfère quand même de loin, en fait. Il était des fois dans l'Ouest pour justement, je sais pas...
Non, pas dans l'Ouest, en Amérique. Moi,
je crois. En Amérique. Oh, OK.
Le film de gangster.
Ah, ben oui, mais c'est vraiment bien aussi. Tu sais qu'en fait, Ennio Morricone a remplacé... Ouais, excuse, moi, je partais dans les deux dans l'Ouest. Là.
Ouais. Mais, c'est pour ça que je parlais de... De Godfather 2.
Ben, t'as tellement raison. Ouais, c'est ça. Je trouvais que ta comparaison était un peu boiteuse, mais j'osais comme pas te le dire. Non, mais
ça commence bien l'épisode cette semaine, je pense. Hein?
Ouais, c'est ça. Mais non, mais pour vrai, oui, mais il y a des versions différentes. Quand c'est sorti, la version de 2h30 était illisible, incompréhensible. Et puis, c'est seulement, en fait, avec la ressortie DVD, carrément, hein, que le film de la version de 4h a regagné un peu les lettres de noblesse, puis que maintenant, en fait, c'est un peu nouveau que le film soit autant acclamé
et considéré. C'est ça, hein?
C'est ça.
Pendant longtemps, c'était genre vraiment un long film plate que le monde voulait pas écouter, là. C'était exactement comme le film que tu voulais éviter dans la filmographie de Léoné, là. Ouais, mais tu sais, il a tellement pas fait de films aussi, parce que la trilogie de l'homme sans nom, il y en a comme 6 ou 7 films dans sa carrière, là. Il a pas fait plus que ça. Il a commencé par un film d'époque, je me souviens pas exactement c'était quoi, là. Mais il a fait comme un film d'époque, puis après ça, il a fait des westerns, puis il a fait Il était toute fois en Amérique, puis that's it, là. Il a produit des films on the side qui restaient beaucoup dans sa branche western, mais... Sinon, il est vraiment sorti des sentiers battus avec Il était une fois en Amérique. Là.
Non, exact. Ouais. Mais moi, je pense que ça prouve un genre de Sergio Leone. Prouve que, je pense que, tu sais, le poids d'une œuvre se calcule vraiment au grand film de la filmographie et non au côté prolifique et à la quantité, j'ai l'impression. Puis effectivement, tu sais, Sergio Leone, oui, il n'a pas fait des tonnes de films, mais il a quand même fait au moins, tu sais, 3-4 films vraiment marquants.
Ben, chaque film sont très marquants, c'est ça. Ouais, son premier, juste pour revenir, c'est le Colosse de Rhodes qu'il a fait en 61. Ah, ouais. Puis après ça, il a fait Fistful of Dollars, A Few Dollars More, Good, Bad and the Ugly. Puis il a juste évolué là-dedans. Puis juste après, il était de nouveau dans l'Ouest, il a fait DocuSucker,
ouais,
qui était comme une espèce d'auto-parodie de lui-même. Puis après, il a fait Once Upon a Time in America. Puis sinon, dans sa filmographie, j'ai l'air super cultivé, mais j'ai IMDB sous les yeux, là. Mais dans sa filmographie, il y a une couple de Uncredited là, où il avait juste participé à... Il avait co-réalisé un peu. Il avait participé à la réalisation tout en étant producteur, là. Dont le film que j'avais vu avec Robert Charlebois à Fantasia, là, le western qui a Robert Charlebois dedans, là, qui c'est quand même complètement fucked up, là, que Léonie l'a approché pour faire un rôle. Mais ouais, c'est ça, c'est vraiment, ça sort complètement de sa filmographie, Once Upon a Time in America.
Puis Once Upon a Time in America aussi, je trouve que c'est le film le plus intéressant à interpréter, mais d'un point de vue quasiment métaphorique, hein. Tu sais qu'il y a des théories, je sais pas si vous t'as lu un peu sur le film plus profondément, mais il y a vraiment des théories comme quoi c'est toute une espèce de rêve bizarre de pseudo-vie sous influence d'opium, en fait.
Parce ben le dernier plan, d'ailleurs, très énigmatique, hein, c'est énigmatique. Robert De Niro qui regarde vraiment dans la caméra. en souriant, puis tu sais, là, il est dans une espèce de bar chinois à fumer de l'opium. Donc, ouais, effectivement, est-ce que ça serait comme des espèces de... Je sais pas, comme ça venait un peu ajouter une couche de lecture possible, ou... Ouais.
Puis aussi, je trouve que c'est peut-être son travail avec Ennio Morricone qui est, ben, peut-être pas son plus marquant, mais je sais qu'il a vraiment poussé la réflexion encore plus loin avec Les Étoiles dans l'Amérique. La musique originale a été composée entièrement avant le tournage. C'était. Tu sais, il y a beaucoup de réalisateurs qui mettent de la musique comme. Pendant le tournage pour mettre ses acteurs dans le bain. Mais dans ce cas-ci, c'était pas de la musique, c'était la musique du film. Donc, il tournait les scènes comme ça avec la flûte de Pan Zamfir ou tout ça, puis la musique de Morricone, full blast pour les séquences où. Mais c'était la musique du film qui était composée avant même la première journée de production. C'est quand même intéressant hein, comme façon.
C'est vraiment beau de voir ce rapport-là aussi avec la musique qui est tellement rare. En fait, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui. Que la musique a aussi une aussi grande importance dans leur film, mais tu peux pas dissocier Ennio Morricone. Tu sais, ben, Sergio Leone d'Ennio Morricone, là, c'est comme. Ils vont ensemble, c'est deux entités qui vont ensemble, puis c'est fou qu'il ait réalisé au point justement de le faire jouer sur le plateau. Là.
Ouais,
le film aurait probablement pas le même ton, la même touche s'il n'y avait pas ça. Là.
Et je crois que c'était le premier rôle aussi de Jennifer Connelly.
Oui, ben elle a quoi? Elle doit avoir 12-13 ans.
Et puis c'est fou sa carrière, je trouve, à cette actrice-là, que des fois je pense qu'elle est un peu sous-estimée, mais elle a vraiment comme bien choisi, je pense, ses rôles. Une carrière atypique, elle est vraiment intéressante, une femme intelligente, je trouve.
Ben oui, elle est intéressante, mettons, dans Little Children, dans quelques films, mais je trouve que c'est vraiment Aronofsky qui l'a peut-être le mieux filmé. Puis est-ce qu'on plonge tout de suite dans Noah? Ben, littéralement, hein, plonger dans Noah. Mais je veux dire, parce que Paul, tu l'as vu, puis je suis quand même vraiment curieux d'en entendre parler.
Moi, je suis vraiment curieux aussi de l'entendre.
Je suis tellement sceptique, là, en tout cas.
OK, d'accord. Ben, au pire, on reviendra tantôt à Cinématique.
Ouais, ouais, ouais.
Mais Noah, de Darren Aronofsky, une espèce de projet de vie. Hein, c'est vraiment depuis qu'il est tout jeune qu'il veut faire ce film-là. Supposément qu'à 13 ans, il y a un poème qu'il a écrit par rapport à ça, qu'il a toujours eu en tête, un peu en arrière-pensée. Et d'ailleurs, on se rappelle que c'est grâce au succès de Black Swan, succès critique et surtout financier.
Ça a été très rentable, Black Swan. Ouais,
ouais. Très rentable, qui lui a un peu ouvert toutes les portes des grands studios. Pendant longtemps, c'est ça, il était attaché en fait à faire le prochain Wolverine ou le prochain Robocop. Mais lorsqu'il a vu la liberté que le succès de Black Swan lui a apporté, il a laissé tomber en fait. Il était très avancé dans la pré-production de Wolverine, supposément. Et pour se consacrer à vraiment le projet qui lui tenait à cœur depuis tout ce temps, Noah. D'ailleurs, La Fontaine partage beaucoup de thèmes et beaucoup d'idées en fait avec Noah, comme si un peu c'était une ébauche de ce qu'il voulait vraiment préparer. Et on se rappelle aussi que La Fontaine, ça aussi, ça va être une espèce de désastre financier. Aronofsky qui n'a pas eu nécessairement une carrière facile au niveau financier. Et je pense qu'avec Noah, qui fait déjà là, beaucoup d'argent en ce moment, ça va être enfin, toutes les portes vont lui être ouvertes. Un peu comme Christopher Nolan, qui après Batman Begins avait vraiment est devenu comme le réalisateur numéro un à Hollywood en ce moment.
Oui, parce qu'il y avait comme une reconnaissance critique, mais en même temps, il n'y a pas eu de gros succès financier à part Black Swan. Puis très, très étrangement, c'est vraiment pas le genre de film qui rapporte autant au box-office. Là.
D'ailleurs, pour l'anecdote, en 3 jours, Noah a fait plus d'argent que les 4 premiers films de Darren Aronofsky, donc ça montre bien un peu. Mais bon, là, Noah, le problème, en fait, c'est que c'est un méga blockbuster à immense budget qui sort un peu au mois de mars comme ça. C'est un peu un drôle de timing, je trouve. Mais en même temps, c'est mois de mars, à chaque année, on a comme un ou deux gros films. Là, comme l'année passée, il y avait, tu sais, le chasseur, le tueur de géants, là, Jack...
Ben c'était Bryan Singer qui avait fait ça.
Ouais, puis il y avait Oz aussi à peu près dans la même époque.
Sam Raimi, donc, c'est vrai, hein?
Donc au printemps, on dirait qu'on essaie de placer un ou deux blockbusters pour essayer de un peu être à l'avance sur la saison de l'été pour pas que. Puis aussi pour avoir un peu le terrain à nous tout seuls, dans un sens, parce qu'en ce moment, l'amateur d'action ou de fantasy peut se tourner là-dessus. C'est comme ça qu'on essaie de nous le vendre. D'ailleurs, moi, je trouve que la campagne marketing est vraiment nulle, ce film-là. On essaie de le vendre comme un Roland Emmerich, là, une espèce de film catastrophe. Les affiches sont vraiment pas inspirées. T'as comme Russell Crowe en plan pied.
Russell Crowe, il est pas inspirant de base, là, d'après moi. Là. Je trouve pas que, en tout cas, c'est une opinion très personnelle, mais je trouve vraiment que c'est un acteur très fade, là. C'est juste dans la filmographie de Ridley Scott, il est juste plugué là, puis il fait la job, là. Je trouve pas qu'il y a quelque chose de spécial. Je trouve pas qu'il y a un shine à l'écran, là. C'est pas...
Mais je suis vraiment d'accord, puis je trouve que c'est un peu étrange qu'il ait été typecasté dans les rôles historiques, en fait. Ben, c'est sûr que, oui, c'est dans la foulée de Gladiator, puis après ça, ça a jamais vraiment ralenti. Pourtant, moi, je trouve que, tu sais, mettons, son meilleur rôle, ça devait être dans The Insider, qu'il a fait avant Gladiator, donc en 99, avec Michael Mann. Hey, ce film-là, les gars, si vous l'avez pas vu, là, d'un, c'est un fichu de bon film, qui étonnamment, je crois qu'il est pas... On en parle pas assez de ce film-là. C'était vraiment, vraiment un film intelligent, mais tu sais, qu'on pouvait aussi apprécier d'un point de vue thriller, même borderline action, espionnage par la bande. Vraiment très bien. Puis je trouvais que Russell Crowe, dans un rôle comme ça, ou même dans L.A. Confidential, que je trouve que c'est un film extrêmement surestimé, mais dans L.A. Confidential, Russell Crowe avait un rôle vraiment intéressant. Puis on dirait que Gladiator a un peu tué peut-être cette espèce de volet-là qui, d'un point de vue du range du comédien, était bien plus adapté. T'sais, dans des rôles, comme je disais là, comme peut-être plus policier ou je ne sais pas trop. Pis... Parce que ce qu'il fait dans les films historiques, là, je le gobe pas, je l'avale pas tant, la pilule. Puis, tu sais, Russell Crowe pour Noah, comment qu'il est, mettons? Comment qu'il s'en sort?
Ben, moi,
je trouve que... On sait même pas quand ce film est bon ou pas, là.
Ouais, ben, c'est ça. Donc, on va s'en sortir dans le film. C'est ça, Noah de Darren Aronofsky. Ben, selon moi, il signe simplement avec ce film-là son plus grand film.
Oh, ouais. Et
je m'attendais vraiment pas à dire ça. Genre, c'est vraiment une grosse surprise, parce que j'avoue que la bande-annonce m'avait un peu turné off, mais pour moi, c'est vraiment un film singulier, et c'est vraiment, en fait, le corps rare du blockbuster qui a vraiment de l'identité, puis qui a une patte d'auteur. Puis ça, c'est vraiment tout à son mérite.
Hey, tu me surprends tellement. Moi aussi, la bande-annonce, j'ai vu ça, puis ça avait l'air de couler, là.
Ça a l'air générique, mais... Il y a autant de l'ambition que, tu sais, un Lord of the Rings, auquel on peut le comparer assez facilement, avec beaucoup de fantaisie. C'est basé, évidemment, sur le best-seller, le Nouveau Testament, pour ceux qui l'ont lu.
Mettons l'Ancien Testament, Paul, non?
C'est pas l'Ancien. Ouais, disons, je sais pas très à jour dans mes lectures bibliques.
C'est un autre blockbuster de littérature, fait que c'est correct, on te pardonne.
Ouais. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que... Il adapte ça. Bon, alors qu'on aurait pu croire que Aronofsky aurait pu essayer de faire de quoi de complètement, comment je dirais ça, anti-religion ou une espèce de lecture moderne, en fait, il est très sincère dans sa lecture. C'est comme, c'est vraiment, il y a des miracles qui se passent. C'est effectivement un homme qui entend des voix de Dieu et qui se met à construire un bateau. Et à l'aide de ses alliés, les Watchers, les anges gardiens, qui sont des espèces de gros monstres de pierre qui bougent.
OK, fantastique à assumer, là.
Oui, c'est très assumé. Et puis c'est vraiment quelque chose... Dès les deux premières minutes du film, on voit les Watchers, parce qu'il y a une espèce de prologue, style le Seigneur des Anneaux, justement, qu'on explique un peu la mythologie de la création du monde, complètement. Et de ces anges qui sont venus sur Terre pour un peu aider les jeunes. Le serpent dans le Jardin d'Éden. Et la pomme. Et puis, il y a tellement de motifs visuels intéressants. Juste la pomme, OK, qui est comme la pomme du péché dans le récit biblique. En fait, elle est comme en forme de cœur et elle pulse. Donc, il y a comme tout un lien là-dessus avec la femme qui prend le cœur, qui l'arrache, qui croque dedans. Et puis, c'est là que, dans le fond, le vice apparaît dans l'humanité. Certains vont trouver peut-être que la symbolique est assez lourde. Mais moi, au contraire, j'ai trouvé vraiment qu'il cinématise, en fait, un récit qui aurait pu être lourd et ridicule, mais étrangement, je pense que c'est la vision et la passion d'Aronofsky qui l'insuffle au projet, qui lui permet vraiment de rendre le tout cohérent. Et en plus, il y a comme tout un côté shakespearien, vraiment, aux enjeux du film, aux enjeux dramatiques. C'est vraiment autant un drame de l'intime que le récit de la création et de la destruction du monde. Donc, il réussit à jouer sur les deux plans. Noah, c'est un père de famille qui est torturé, qui essaie de faire le bien, mais qui doit quand même tuer pour protéger sa famille. Et eux, en fait, c'est une petite famille là, de comme lui et sa femme Jennifer Connelly, qui est très bonne là-dedans, qui est un peu effacée, par contre, elle n'a pas un très gros rôle. Et ses enfants.
Emma Watson,
oui.
Ce sort d'Harry Potter, est-ce que ça marche? Elle marchait pas dans Bling Ring, là?
Elle est très, très bonne là-dedans, mais elle a encore un petit rôle, vu que dans le fond, elle joue le parce qu'il y a comme des ça se passe sur des dizaines d'années, là, le récit, donc okay. Elle est plus vers la fin du film. Et c'est ça, en fait, eux, c'est comme une gang un peu de végétariens, style un peu grano, c'est quand même assez drôle. Puis là, ils enseignent à ses enfants qu'on ne doit pas cueillir des fleurs, parce qu'on doit juste, tu sais, utiliser ce qu'on a de besoin, puis réutiliser, puis tu sais, ils chassent les petits fruits, puis dans le fond, il y a comme une espèce de symbolique envers laquelle, tu sais, les mangeurs de viande, les carnivores, tout ça, ça leur donne la force. Comment?
T'as-tu dit qu'ils chassent des fruits?
Ben, ils cueillent des fruits, ouais, je me suis un peu trompé dans mes phrases.
Ça s'en vient vraiment fantastique, là.
Ouais, non. Mais bref, donc il y a comme tout un côté un peu pro-environnement qui est quand même, je pense, d'actualité. C'est pas nécessairement appuyé, mais...
Le niveau de la mer qui augmente, ça, c'est d'actualité, effectivement.
Mais c'est pas non plus comme super appuyé, mais c'est présent. Ce qui est fun, c'est vraiment... On le traite comme une espèce de thriller psychologique. Hein? Tu sais, le Noah d'Aronofsky est pas loin du Luther de Mickey Rourke. Il est pas loin de Black Swan et même du personnage de Pi. Ces espèces de protagonistes qui essaient de voir des symboles et des signes où il y en a peut-être pas forcément. Puis vraiment, je pense que le film, scénaristiquement, il y a quelques lacunes ou quelques choix qu'on peut peut-être critiquer. Mais je trouve qu'au lieu de critiquer ce qu'il n'y a pas, moi, je trouve qu'en tout cas, moi, je louange ce qui se trouve dans le film. Comme par exemple, tu sais, bon, évidemment, on connaît l'histoire, tu sais, deux représentants pour chaque espèce, donc une femelle et un mâle, de comme tous les animaux sur Terre. Et ça arrive à trois reprises. Il y a beaucoup de répétitions dans le film. Comme des leitmotivs. Il y a une grosse scène où tous les oiseaux, tous les animaux volants, les insectes arrivent à l'arche en même temps, et puis ça fait vraiment des séquences assez époustouflantes.
Comment ils sélectionnent les animaux, puis qui va.
Ils sélectionnent pas, en fait. C'est comme si Dieu appelle les animaux, j'imagine, puis il y en a juste deux de chaque qui arrivent automatiquement. Okay. Ouais, c'est ça. Mais par contre, Noah pense que si. En tout cas, il interprète en fait le message de Dieu, et il a un dilemme. Dans le sens qu'ils ne pensent pas que la race humaine devrait continuer, en fait. Donc là, se jouent tous les conflits intérieurs et aussi interfamiliaux. Parce que là, il y a comme... est-ce qu'on suit Noah? Est-ce que c'est notre père, donc une autorité? Mais en même temps, il y a des villages autour qui viennent un peu quémander puis qui viennent dire, ben, on ne croit pas à ça, tes visions. Puis si jamais c'est vrai, ben, est-ce que tu vas nous sauver? Puis Noah, il refuse, il dit... On a comme trop usé la terre, maintenant il faut le redonner aux animaux, donc c'est quand même assez étrange.
Mais ça a quand même quasiment l'air d'une lecture que t'en fais, que comme justement thriller psychologique, où on a un personnage qui est survivaliste dans le fond, tu sais, puis qui finalement a raison. Tu sais, moi, à la limite, t'en parles, puis j'ai quasiment Take Shelter en tête. Je sais pas si vous l'avez vu, les gars, Take Shelter, au fait.
Ah, ça, je l'ai pas vu, malheureusement.
C'est vraiment un bon film, c'est vraiment très bon. Puis dans Take Shelter, ça prend un peu une proportion biblique à la fin, là, sans trop vendre la mèche. Là. Ouais. Mais je suis vraiment surpris, Paul. Mm-hmm. Parce que moi, je trouvais que dans la bande-annonce, là, ce qui avait l'air de s'écrouler, là, c'était genre Anthony Hopkins qui avait l'air de jouer une espèce de personnage là, qui connaît tout. Puis il avait l'air d'avoir des espèces de guerres bidons, là, de genre tout le monde voulait essayer d'aller dans l'arche. Puis là, ça avait vraiment l'air de partir en couille là, à ce moment-là.
Ouais, la scène que tu mentionnes, il y a comme une grosse scène de bataille qui rappelle beaucoup justement le Seigneur des Anneaux avec, tu sais, mettons, on s'appelle les arbres, les Ents se battaient contre les hommes, tout ça. Donc, un peu le même principe entre les anges gardiens en pierre et les hommes qui attaquent. Mais bon, j'ai trouvé ça bien. C'est peut-être pas la meilleure partie. Moi, c'est vraiment dans le récit un peu shakespearien entre les personnages, entre un peu le leader du clan des non-croyants. Lui, il essaie en fait de prendre sous son aile l'un des fils de Noah parce que lui, dans le fond, il voulait sauver une fille. Et Noah a dit non, on n'a pas le temps. En tout cas, grosse affaire. Donc, il y a comme un récit entre le fils et le père, entre son ennemi, son allié, des trucs comme ça. C'est vraiment intéressant. Et surtout, au niveau musical et visuel, Darren Aronofsky s'en donne plein. Il en met plein la vue, vraiment. Là, il s'en donne à cœur joie. Il continue son travail avec le directeur photo Mathieu Libatic et le compositeur Clint Mansell.
Ça, je suis curieux de savoir comment ça sort. Parce que Clint Mansell, c'est à chaque fois, coup sur coup, moi, ça me jette à terre son travail. Encore une fois, comment c'est?
Ah, c'est vraiment génial. C'est vraiment hallucinant. Ouais. Honnêtement, bon, c'est sûr que là, une trame sonore, c'est dur à juger juste après une écoute là, dans un film. Là, je trouve qu'il faut juger peut-être par après, mais moi, pour moi, ça marchait vraiment beaucoup. Il y avait vraiment une personnalité, en fait, dans le film. Alors qu'il y a tellement de blockbusters, tu sais, comme un exemple de Man of Steel, tu sais, c'est comme la bande-annonce était super bonne, tu sais, le concept c'est bien, l'équipe est bonne sur papier, mais on dirait qu'il manque de vision, il manque de cohérence. On dirait que la musique est générique, les plans, c'est bien filmé, mais il n'y a pas vraiment d'inventivité. Alors que si c'est tout le contraire, il y a tellement de plans qui sont formidables dans ce film-là, notamment des espèces de plans de silhouette, un peu comme dans La Fontaine, où on voit un peu le ciel étoilé avec Noah qui est devant, lui, tout en contre-jour, dans le fond. Ou encore certains montages hip-hop, un peu comme il avait fait dans Requiem for a Dream et Pi. Ou encore, il y a une espèce une des meilleures séquences du film, puis je pense que c'est une séquence que je vais me rappeler toujours, là. C'est une histoire que Noah raconte à ses enfants, qui est finalement les 7 premiers jours de la création. Et ils sont comme autour du feu. Non, sont autour d'une chandelle. Et ils ferment la chandelle. Donc là, l'écran devient noir. Et on a les premiers mots de Noah, de Russell Crowe. Et ensuite, on a une espèce de time-lapse géant qui fait vraiment comme du Big Bang au présent, au présent de Noah, là. C'est vraiment hallucinant comme la manière qu'elle est faite. Parce qu'il y a vraiment un côté stop motion, en fait, dans l'animation de ce film-là.
Ouais, dans The Phantom, il avait un peu cherché ça, hein, parfois, tu sais, oui, comme les fleurs là, à la fin ou des trucs comme ça. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans sa conception, en fait, du travail d'effets spéciaux, en fait.
Ouais, justement, c'est dans la continuité de ça. Il y a justement une référence à ça quand il y a une goutte à un moment donné, la première goutte qui tombe et il y a comme une petite fleur qui pousse automatiquement. Ça rappelle les fleurs qui poussent dans la bouche de Hugh Jackman. Et la manière aussi que les espèces d'anges gardiens en roche se déplacent, c'est du CGI, mais ils ont un look saccadé qui rappelle vraiment un stop motion, mais comme c'était du stop motion, tu sais, de 2014, comme vraiment
comme évolué. Le film de Lego, dans le fond, là.
J'ai pas encore vu le film de Lego, malheureusement.
J'essaie juste de me plugger dans la conversation.
Ouais, vraiment, du coup, on dirait que il y a de quoi d'affectif que moi je trouvais dans ce film-là, parce qu'on était loin des CGI comme un peu génériques où est-ce qu'on voit vraiment que c'est trop fluide pour être vrai, là, dans un sens. Là.
Mais il joue beaucoup, tu sais, même Black Swan, en fait, il y avait beaucoup d'effets qui étaient faits live, là, sa transformation physique, tu vois, je sais pas si c'est tellement organique, on dirait, la façon que fait, là.
Ouais, mais c'est ça.
Ça se détache, ça, des effets spéciaux trop on en met plein la vue, puis t'as le titre, là. Ouais. Parce que c'est un peu sur ça que la bande-annonce se focussait de Noah, puis j'avais peur que c'est un réalisateur qui était pogné dans dans le concept du studio, puis qu'il faut qu'il suive les dires d'un producteur, mais c'est cool de voir qu'il a pu garder sa vision un peu comme Christopher Nolan, dans le fond. Là.
Ouais, c'est tout à fait le cas. Puis je pense qu'en fait, que le studio savait pas comment vendre le film, tu sais, parce que c'est vraiment un parti pris. Parce que d'un, tu choques automatiquement, genre les chrétiens, tu sais, qui sont très à cheval sur là-dessus, là, puis ils veulent pas qu'on en parle. De deux.
Tu peux rebuter les gens qui pensent que c'est un discours chrétien un peu didactique puis littéral aussi. Il y a ça aussi là, qui peut être un turn-off pour bien des gens, j'ai l'impression.
Ouais. Puis le film, ça se veut, c'est ça, beaucoup plus un film adulte. Tu sais, comme la séquence, justement, là, de combat, là, de gros combat qu'on voit dans la bande-annonce, là, c'est tellement brutal, là, on est loin des espèces de bastons génériques de certains films où, tu sais, c'est pas vraiment grave, là, c'est comme... ça me rappelle plus un Cœur vaillant, en fait, avec leur combats qui sont... tu sais, il y a du sang qui gicle, puis tu sens vraiment comme c'est des humains qui se battent, puis il y a quelque chose de brutal, puis tout le long du film, c'est ça, c'est comme on est loin de je sais pas, c'est comme un Noah, mais de manière beaucoup plus... à la manière Aronofsky, là, tu sais, un peu trash, un peu rugueuse, mais vraiment inventive, puis pour un film de comme, je sais pas comment ça a coûté, 150 millions, là, c'est comme vraiment impressionnant toute la liberté qu'il a pu avoir.
Mm.
Donc, moi, vraiment, je le recommande. Là, ça m'a vraiment surpris comme film. Donnez-y la chance. Puis je sais, en plus, que le film divise. Là, comme je viens de voir sur cinéma.com, ils ont vraiment pas aimé ça.
L'autre piège de défaut aussi, c'est que les réalisateurs, quand ils ont toute la liberté, c'est là que ça dérape parce qu'ils peuvent trop tout faire, tu sais.
Ouais.
Genre un Francis Ford Coppola qui décide de faire One from the Heart, tu sais, après avoir eu tout le succès qu'il a eu. On va avoir tout l'argent du monde, donc je vais pouvoir faire tout ce que je veux. Puis finalement, il n'y a comme plus d'embûches, donc il n'y a plus vraiment de façon créative de passer autour. Ouais, vraiment, tu me surprends, Paul. Je m'attendais tellement à ce que tu le blastes, là. Je suis comme déçu. J'aurais pu t'entendre blaster un film. Mais c'est vraiment cool.
moi, ça fait un peu penser à... Je pensais à Spartacus de Kubrick quand j'écoutais ça, en fait. C'est comme le premier gros projet de Kubrick. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui... lui-même, en fait, il a un peu renié le film parce qu'il n'avait pas nécessairement le contrôle dessus. Spartacus, dans sa forme, c'est beaucoup plus classique qu'un Noah. Mais reste que, tu sais, Spartacus, moi, je trouve que c'est un gros film de studio, là, vraiment bien fait. Là, puis il y a vraiment beaucoup de qualité dans ce film-là. Bon, ensuite, je suis très content que Kubrick a suivi ensuite un chemin peut-être plus personnel.
Il a enchaîné avec genre Lolita après. Là, comme...
ouais.
C'est vraiment, vraiment à l'opposé.
Mais Spartacus, c'est ça, c'est loin d'être un mauvais film. Et ouais. Noah, pour moi, ça m'a vraiment surpris. C'est ça, l'exemple du blockbuster qui a de la gueule, surtout qu'il y a une identité, tu sais, qu'il y a une touche derrière. Donc, ça, c'est rare qu'on voit ça. Puis justement, c'est drôle parce que cette semaine, je vais aller voir, il y a le documentaire Jodorowsky Dune qui sort justement. Puis ça, c'est un autre cas justement d'un... Bon, finalement, ce film-là n'a jamais été produit, mais ça aurait été le fun de voir ce qu'un homme comme Jodorowsky aurait fait de
quelqu'un qui a une vision comme Dune. Ça, là. Hey, ouais. Tu vois juste les designs des en tout cas j'ai vraiment hâte de le voir ce film-là. Je pourrais pas le voir cette semaine malheureusement là, mais j'ai hâte de t'entendre parler aussi par toi là. Ça a l'air tellement insane, un genre de Lost in La Mancha mais sur un projet complètement juste en mégalomane là, complètement là.
Ouais vraiment.
Donc bref, Noah, je recommande vraiment beaucoup. Ah oui, puis le casting là, vraiment là, sont vraiment bons. Russell Crowe est très solide.
Anthony Hopkins, il a de l'air de faire un peu là, grand-père preacher là, qui a tout le temps la solution là, non?
Mais rendu là, Anthony Hopkins, c'est comme il n'y a plus vraiment de, tu sais, il a vraiment des gros rôles. Ça fait longtemps là. Ben, il a joué Hitchcock, mais pas dans un excellent film, là.
C'était bien ce qu'il a fait avec Hitchcock, avec vraiment pas grand-chose.
Il est excellent, en fait. Le casting, c'était la force dans ce film-là. Mais Anthony Hopkins, il me semble que ça fait longtemps qu'il y a eu un gros rôle qui a des culs, là.
Ouais, puis là-dedans, tu sais, il fait un tout petit rôle, tu sais, on le voit quelques fois. Mais même lui, tu sais, je trouve qu'il y a une espèce de personnalité qui est vraiment le fun. Comme, entre autres, tu sais, lui, il veut manger des baies pendant le film, puis... des petits fruits, puis là, ça revient une couple de fois, une espèce de running gag, là. Mais non, tu sais, c'est vraiment un tout petit rôle, là. Mais vraiment, l'antagoniste du film, là, j'ai pas son nom sous les yeux, là.
Oui, c'est Ray Winstone,
Ray Winstone, OK, qui fait, le leader de ceux qui veulent entrer sur le bateau. Cet homme-là, pour vrai, il forge un personnage qui m'évoquait le Captain Kurtz de Marlon Brando dans Apocalypse Now.
Ah ouais?
Une espèce de personnalité plus grande que nature, et puis une force, là, vraiment un monument qui essaie un peu de manipuler la famille de Noé. Donc, non, vraiment, là, j'ai déjà hâte, en fait, de revoir ce film-là. Il y a tellement des images incroyables dans ce film-là. C'est vraiment un beau film. Mais j'ai peur, bon, je pense pas que c'est un film vraiment qui va récolter des Oscars parce que c'est tellement un parti pris bizarre, puis que en plus, c'est un film sur la religion, les Oscars sont pas très portés là-dessus, mais si on pouvait se rappeler de Matthew Libatic à la fin de l'année comme meilleure section photo, là, je serais vraiment content parce que je l'ai vu en IMAX, le film, il joue en IMAX, puis c'est un festin. Là.
Bon, ben crème de crème.
Ouais, donc voilà, Noah qui est à l'affiche en ce moment.
On va voir ça, c'est sûr.
Sinon, Pascal, tu as vu des documentaires cette semaine qui étaient nommés aux Oscars?
Oui, j'ai fait du rattrapage. J'ai vu deux documentaires qui étaient nommés dans les 5 documentaires qui étaient aux Oscars. Donc, on le sait, aux Oscars, il y avait le gros contender cette année à tous les points de vue, sauf aux Oscars. Là, si on se fie à peu près à tout partout dans le monde, c'était The Act of Killing.
Ouais, ouais.
Qui reste... regarde, écoute, j'ai vu Cutie and the Boxer cette semaine et 20 Feet from Stardom qui a gagné l'Oscar. Bon, The Act of Killing est encore supérieur à ceux-là pour plusieurs raisons. Je veux dire, c'est un film qui va rester, c'est sûr, comme dans les annales des documentaires marquants et puissants. Mais les deux sont fichement pas mauvais. Et oui, 20 Feet from Stardom aussi. C'est drôle, en fait, tu sais, quand on écoutait les Oscars chez nous, Paul, on avait fait notre petit poll d'Oscars, tu sais, puis tu pensais que ça allait être The Act of Killing qui allait l'emporter. Puis moi, j'avais dit non, moi, je pense que c'est 20 Feet from Stardom parce que je me semble que de réputation, c'est toujours le plus safe des 5 documentaires qui gagnent et c'est toujours souvent le plus sentimental.
Ouais.
Et cette année, ça n'a pas fait exception parce que c'est le plus safe et le plus sentimental. Par contre, c'est bien et c'est pas mauvais et je vais y revenir. Mais je vais commencer par celui que j'ai préféré des deux. Et c'est Cutie and the Boxer du réalisateur Zachary Enzerling, documentaire américain, mais qui se penche sur le personnage de Ushio Shinohara et de sa femme Noriko Shinohara. Ushio, c'est un artiste qui était vraiment dans la foulée du pop art. Il est parti du Japon pour s'installer à New York dans le temps où tu sais, New York, ben, New York, évidemment, bouillonne toujours pour leurs contemporains, pour leurs modernes, mais je crois particulièrement dans le temps de la Factory, d'Andy Warhol et tout ça. Et donc, Ushio s'est installé comme ça, a fait une carrière. Et lui, ce qu'il fait, il fait beaucoup de sculptures, il est quand même assez versatile, mais il est reconnu beaucoup pour ses peintures où il boxe sur des canevas énormes. Donc, ce qu'il fait, il met de la peinture sur ses gants, et puis là, il ferme les yeux, et puis là, il tape pendant peut-être 2-3 minutes sur le canevas, et voici sa toile, voici son art, tu sais. Donc, on pense qu'évidemment, on va parler plus de la carrière de l'artiste, mais le film est assez intéressant parce que on parle beaucoup plus de sa femme Noriko que de Ushio. Parce que l'histoire, en fait, c'est un couple qui est marié depuis 40 ans. Noriko est arrivée à New York alors qu'elle avait seulement 19 ans. Elle voulait étudier en art. Elle a toujours une fascination pour les arts. Et là, elle est tombée sur Ushio, qui était beaucoup plus âgé qu'elle. Il avait 41 ans déjà à l'époque. Et là, ils ont embarqué déjà dans une dynamique de mentor-élève qui est devenue une dynamique amoureuse. Et 40 ans plus tard, et maintenant, ils sont mariés et ils ont vécu leur vie. Par contre, Noriko, c'est une femme extrêmement tragique, car elle a 6 mois après avoir rencontré Ushio, elle est tombée enceinte et après ça, elle a élevé sa famille. Et puis, le film aussi fait un grand commentaire sur un peu le déclin de l'enthousiasme qu'on a pu avoir envers l'art moderne aussi. Mmh. Donc, c'est quoi la place de l'artiste qui tripait avec Andy Warhol dans les années 60? Où est-il, cet artiste-là? À un moment donné, on le voit vendre une pièce absolument sublime pour comme 3 000 $, puis tu te dis, voyons, ça n'a pas de bon sens, cet artiste-là, dans les années 60, il devait vendre ses sculptures 100 fois le prix, puis je suis sûr que j'exagère pas, là. Donc, c'est vraiment un portrait un peu triste, je t'avoue, de l'état de l'art, de l'art en majuscule, un peu, là, et comment on consomme l'art aujourd'hui, où est la place de l'artiste. Mais vraiment, le film est extrêmement intéressant par le personnage de Noriko, qui, elle, se bat encore et toujours pour être une artiste reconnue.
Parce qu'elle souffre de la comparaison.
Souffre de la comparaison. Et oui, le film peut-être manipule un peu parce que, tu sais, compile les moments où elle est écrasée par les autres, par les critiques d'art qui viennent voir le studio, puis qu'elle essaye de montrer ses œuvres, puis que les gens les regardent à peine, mais tu sais, ils sont là, puis l'espèce de commentaire, là, genre, il intellectualise un peu à outrance, là, genre le rapport viscéral entre l'homme et sa toile quand il boxe sur des canevas. Alors que, tu sais, c'est l'espèce de typique œuvre d'art qu'on peut balayer de la main puis dire, voyons, c'est n'importe quoi. C'est plus que du n'importe quoi, mais on s'entend. Puis elle, tu vois qu'elle a comme une réflexion, qu'elle essaie d'aller loin avec son art, puis elle est juste pas prise au sérieux. Donc, il y a toute la relation entre la réputation de l'artiste qui, ultimement, devient l'artiste aujourd'hui, j'ai l'impression. Parce qu'il n'y a plus vraiment d'art qui va autant s'inscrire historiquement quelque part en 2014.
Ben, écoute, est-ce qu'on le sait maintenant?
C'est ça. Écoute, je ne veux même pas aller là-dedans. Mais le film, donc, et c'est très apprécié, est une histoire d'amour absolument sublime. Une histoire d'acceptation, une histoire de comment cette femme-là est une femme tragique, est une grande héroïne, est une femme qui a énormément de résilience, extrêmement généreuse, extrêmement passionnée. Puis elle, en fait, son œuvre, puis c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'elle elle fait des suites de tableaux que ça fait vraiment, vraiment, vraiment longtemps qu'elle travaille dessus, mais qui met en abîme sa vie et ses défaites de sa vie et la perte de son ambition au contact de cet homme-là. Donc, Cutie, c'est son alter ego, son personnage fictif d'une jeune ingénue qui tombe en amour avec Bully. Ça, c'est dans ces espèces de... Ça fait quasiment des graphic novels un peu, là. Ça fait quasiment roman graphique. Et c'est extrêmement critique et sale, en fait. Mais, et puis là, l'autre, il est pas fou, Ushio, il sait que ça parle de son couple, mais il en parle toujours à la troisième personne et jamais vraiment de front. Et puis, il y a juste un beau moment qui est allé chercher des larmes, alors que c'est pas sentimental, c'est juste, ça a été tellement bien amené, où Ushio demande à Noriko, est-ce que Cutie, elle aime Bully? Et puis là, Noriko, elle lui répond en fait ben, que oui, qu'elle est follement amoureuse de lui, tu sais, pourquoi qu'elle tolérerait tout ça. Puis c'est juste, elle le dit comme ça, puis c'est pas plus appuyé que ça, mais c'est tellement beau. Je trouve que c'est une histoire d'amour vraiment transcendante, vraiment teintée de nostalgie. Il y a un peu des trucs d'époque, il y a un peu de home vidéo qui sont mêlés à ça. C'est pas un documentaire avec des entrevues, avec de la voix off. On est vraiment très proche de eux. Zachary Heinzerling, j'ai l'impression qu'il a développé des liens extrêmement forts avec les deux sujets. Et ça paraît, c'est un film vraiment humain, vraiment touchant. Un très, 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 très beau film que je recommande à tous. C'est un court film, hein, 80 minutes. Puis on va loin, on parle de l'art, on parle de l'amour, on parle de grandir ensemble, vieillir ensemble, accepter la jalousie, les complexes, l'infériorité, le succès. Ah, c'est extrêmement riche et vraiment un très beau film.
Bon.
Donc ça, c'est un. 20 Feet from Stardom, ça, c'est un documentaire qui est... je vais passer moins de temps dessus parce qu'il est très intéressant, mais pour son sujet, pas par comment il est fait. C'est un documentaire, comme on en voit beaucoup, documentaire musical qui est un peu à saveur historique, avec des entrevues, des talking heads, et on parle des choristes, des backup singers, comme on le dit en anglais. Et, mais c'est très intéressant. On entre dans l'univers, en fait, tout le son un peu Motown des années 60, qui était comme le son un peu noir, afro-américain, qui a commencé à teinter toute la musique que dans le rock'n'roll a été repris. Entre autres, on suit plus spécifiquement quelques choristes, dont une qui est la choriste qui a fait, entre autres, sur Gimme Shelter des Rolling Stones. Tu sais, c'est la femme là, qui fait les Rape Murder. Tu sais, bon, je chanterai pas. Mais le jour où Pascal a chanté au podcast, mesdames et messieurs.
J'espère qu'on va choisir le podcast sur ça au lieu de choisir sur une bande-annonce. Là.
Ben oui, on met Gimme Shelter à la fin. Mais pour de vrai.
Mais ça me dit rien, Pascal, la chanson, peux-tu la reprendre, s'il te plaît?
Non, je reprends pas. C'était sur l'émotion, les amis.
Mais c'est-tu moi où les documentaires sont très focusés sur des trucs très nostalgiques, en fait, des trucs artistiques et nostalgiques.
Oui, mais c'est un traitement vraiment différent. Cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est un documentaire qui se voulait extrêmement formaté dans sa forme pour pouvoir un petit peu essayer de réécrire un peu une histoire. Une histoire H majuscule, une histoire de la musique. Et en mettant l'influence et en mettant à l'avant les noms, en fait, de gens qu'on connaît pas. Et de là, le titre, en fait, les gens qui sont un peu à l'arrière-scène, donc les choristes. Et on suit quelques-unes, hein, par-ci par-là, un peu à travers les époques, et dont une pionnière qui s'appelle Darlene Love, qui, en fait, était vraiment la femme de l'ombre. Parce que,
est-ce que c'est son vrai nom, ça?
Non, c'est un nom que... C'est le producteur Phil Spector, en fait, qui... c'est Darlene quelque chose, puis elle est devenue Darlene Love parce que c'est plus nom d'artiste. Mais elle, par exemple, elle a fait énormément de chants et même de lead vocal sur des groupes de... Tu sais, les années 60, là, c'était bien à la mode, là, tu sais, les girl bands, là, tu sais, les souvent des trios de voix féminines comme ça, un peu vieillis, bon. Et puis, en fait, Darlene Love a fait même du chant principal sur des artistes là, qui ont fait des numéro 1 au Billboard, là, carrément. Puis elle n'a jamais été reconnue parce que c'est une prête-nom. Tu sais, comme quoi, en littérature, il y a des ghostwriters. Ben, en musique, certains artistes comme ça ont été complètement étouffés parce que des fois, il y a un système qui est engorgé. Il n'y a pas de place pour avoir autant d'artistes qui ont des chances d'être numéro 1 sur le Billboard. Alors... ben un peu comme le scandale Milli Vanilli, là, tu sais, puis cette affaire-là, quasiment, mais avant le temps. Et donc là, c'est une tentative de réécrire l'histoire, carrément, et en mettant de l'avant ces choristes-là. C'est très intéressant. Écoute, moindrement qu'on s'intéresse, tu sais, à la musique, l'histoire de la musique, il y a des beaux moments, il y a des réunions entre des trios de choristes comme ça, puis c'est des moments assez touchants. Est-ce que ça méritait l'Oscar? Ben, vous me voyez venir. Je veux dire, devant The Act of Killing, certainement pas. Puis même Cutie and the Boxer, qui était tellement beau, non.
Donc toi, en fait, ce que tu reproches au film, c'est peut-être juste un certain
académisme, carrément. Mais c'est vraiment pas mauvais. C'est vraiment, vraiment pas mauvais. C'est très intéressant. Puis comme un bon documentaire informatif peut le faire, ben ça te force... Tu sais, t'as envie d'approfondir, tu vas sur Wikipédia, tu commences à regarder un peu par-ci par-là, t'écoutes des chansons, t'essaies... Donc, le film réussit ne serait-ce qu'à ce niveau-là, parce que ça te plonge un peu plus dans, dans l'univers. Et ça, c'est vrai que ça te donne une relecture historique de la musique qui est fascinante.
Un peu comme, tu sais, on avait écouté ensemble là, Sound City, là, le documentaire de Dave Grohl.
C'est comparable, un peu. C'est un peu comparable dans ce que le film essaie d'accomplir. Un petit peu plus profond au niveau des enjeux, parce qu'on parle quand même de tensions raciales, parce que, tu sais, le monde des choristes dans la musique populaire américaine, c'était vraiment un son noir. Whatever that means, là. Tu sais, que même dans les groupes rock'n'roll, les Led Zeppelin, les tout ça, ils allaient rechercher ça dans les chœurs. Ça a vraiment contaminé tout. Puis c'est un petit peu aussi, c'est métaphorique, je veux dire, tu sais, c'est comme les Noirs qui ont amené cet art-là au niveau où c'est rendu, mais sans jamais la vraie reconnaissance que peut-être ça aurait dû avoir. Donc, il y a quand même ce degré de lecture-là qui est intéressant.
Ouais, versus un film à propos d'un musicien qui va acheter une table de son.
Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, on s'entend. C'est quand même. Tu sais, c'est un meilleur film que le film sur Sound City. Mais le film sur Sound City était très le fun. On l'a visionné ensemble, Paul, le film de Dave Grohl. Puis c'est trippant. T'as envie d'écouter, de revenir chez vous, puis d'écouter du rock. Là,
tu sens la passion derrière le projet. Parce que Dave Grohl, c'est pas un cinéaste tant que ça.
Non. C'est ça.
Je pense qu'elle a eu le goût de faire ce projet-là en particulier, puis ça donne un beau projet personnel.
Exact. Mais c'est ça. Donc, 20 Feet from Stardom, moi, je vous dirais, je vous le conseille si le sujet vous intéresse, mais ne cherchez pas de prouesse de documentaire qui va excéder vos attentes à ce niveau-là.
Bon, puis d'ailleurs, je pense que c'est cette semaine que Netflix annonçait que les 5 films nominés, les 5 documentaires nominés sont accessibles sur Netflix. Ensuite, bon, je ne sais pas s'ils sont tous accessibles à Netflix Canada, parce qu'il y a des différences entre le catalogue US et canadien. Mais quand même, hein, Netflix sont toujours très forts sur les documentaires, en fait.
Oui, c'est vrai.
Donc, une belle plateforme si jamais vous voulez, si vous voulez chercher, en fait. Donc, toute cette grosse parenthèse-là pour revenir à la cinémathèque québécoise. Alors, c'est ça, on disait que le 30 avril, la journée Sergio Leone, il y a aussi également cette journée-là de Good, the Bad and the Ugly.
Ouais.
Qui va jouer.
Ah, mais ça fait une grosse journée, par exemple, c'est des films de 3-4 heures chaque, là.
Ouais.
C'est comme un gros marathon de 2-3 films, là. tu peux vraiment, vraiment rester dans la salle très longtemps, mais t'écoutes très peu de films, là.
Je pense pas qu'il y aura beaucoup de gens qui vont assister aux deux séances là, la même journée, mais bon. Si vous n'avez pas vu un ou l'autre, ou si vous avez le goût de revoir, hein, c'est les deux excellents films. Sinon, ben, c'est encore le cycle d'Orson Welles, vraiment une rétrospective intégrale, hein, qui se poursuit toute une bonne partie du mois d'avril.
Oui. Là, on est plus sur les films soit tardifs ou un peu moins connus d'Orson Welles, comme son fameux Mr. Arcadon, qui est extrêmement cryptique. Hein? On ne sait pas trop c'est quoi. Tu sais, c'est du Orson Welles qui n'a comme aucune limite puis qui ne sait même pas lui-même dans quelles eaux il va aller. Donc, c'est un film curieux. C'est peut-être pas celui que je conseillerais le plus. Il y a son Othello. On sait qu'Orson Welles a fait énormément d'adaptations très intéressantes de Shakespeare. C'était quand même quelqu'un qui était très, très, très versé dans Shakespeare. Il connaissait vraiment bien son matériel. D'ailleurs, lui, c'est un homme de théâtre avant tout. Hein, le cinéma, Citizen Kane, d'ailleurs, il dit, lui, sans complexe, à quel point il ne savait pas comment faire de film. Il ne connaissait pas sa règle du 180 degrés. Il ne connaissait pas grand-chose quand il a fait Citizen Kane. Puis ça a été son espèce de collaboration avec Greg Toland, le directeur photo, puis avec tout le monde, finalement, que Citizen Kane est devenu le chef-d'œuvre qu'il est maintenant.
Et avec son co-scénariste aussi, qui a permis d'avoir une structure cinématique intéressante.
Oui. Non, c'est un travail vraiment collaboratif, mais Orson Welles, bon, il n'y a rien à prouver, puis par la suite, il a prouvé qu'il n'y avait rien à prouver. Mais là, c'est ça, il a fait beaucoup de Shakespeare, il avait fait un Jules César, entre autres, une adaptation de Jules César avec un cast 100% afro-américain. Ça, c'est dans les années 30, hein, on parle quand même.
Ouais,
avant d'avoir fait
Citizen Kane. Oh my God, je ne savais pas.
Avec sa compagnie, avec le Mercury Theatre, il a fait une adaptation de Jules César de Shakespeare avec que des Noirs. Et il dit dans sa fameuse entrevue, là, il y a un documentaire de comme 3 heures de BBC vraiment extensif sur Orson Welles, qui est très, très, très intéressant, si vous aimez le personnage d'ailleurs. Et il dit que c'est la plus grande réussite de sa vie. C'est quand même intense venant de quelqu'un qui a fait... un petit film qui s'appelle Citizen Kane, puis plein d'autres affaires, là. puis c'est ça, puis donc il a fait aussi un Macbeth vraiment, vraiment low budget, avec genre des armures en carton, puis des trucs comme ça. Puis dans Othello, c'est tellement fascinant, OK, comment que ce film-là a été fait. Il manquait d'argent à peu près à toutes les semaines. Fait que là, il tournait une semaine, après ça, il prenait des gigs, OK, il allait acter ou faire de la voix ou faire des trucs, puis il payait l'hôtel à tout le monde, à son équipe, puis à ses comédiens, OK, pour qu'il reste sur le plateau. Donc, il était comme un peu en otage sur le plateau d'Othello pendant que lui, il allait faire genre de l'argent comme il pouvait à droite à gauche. Il revenait, il remettait son argent pour refilmer une partie d'Othello. Quand il n'y avait plus de fonds, il retournait faire des affaires puis il gardait ses comédiens à l'hôtel. C'est vraiment bizarre. Puis la plus drôle anecdote sur Othello, qui est vraiment fascinante, si ça vous donne envie d'aller le voir, il y a une scène qui est vraiment maintenant célèbre. C'est la scène d'ouverture, se passe dans des bains de vapeur. Vraiment cinématographique. Hein? On sait, le travail avec la vapeur, la fumée chez Orson Welles, c'est vraiment fascinant. Dans Citizen Kane, hein, on se rappelle les plans avec les douches de lumière, puis c'est extrêmement beau. Puis ça, c'est un style qu'il avait même dans ses productions au théâtre. Mais dans Othello, il a fait ça parce que ses costumes étaient... Il n'y avait pas d'argent. Ses costumes étaient pris aux douanes. Puis il ne pouvait pas payer pour avoir accès à ses costumes. Donc, il a dit, on va quand même tourner la scène d'ouverture du film, mais on va le faire sans les costumes. Fait qu'il l'a fait comme ça, dans une scène, dans des bains de vapeur. C'est tellement...
C'est fou quand même comme anecdote.
C'est fou comme anecdote, mais en même temps, c'est une scène génialissime. Donc, comme quoi, tu sais, c'est un cliché de dire ça, mais c'est vrai, des fois, les contraintes font en sorte que la créativité peut partir dans tous les sens. Puis Orson Welles le prouvait, c'est surtout avec ses adaptations de Shakespeare qu'il l'a fait avec des moyens, là, mais dérisoires. Donc, encore une fois, là, je veux dire, Orson Welles, bordel, faut voir ses films, c'est comme... C'est le king, là, il est trop fort.
Ouais, Pascal, je suis curieux. Je sais pas si tu connais un peu c'est quoi ce projet-là, en fait, parce que moi, je suis vraiment pas un très grand connaisseur de l'œuvre d'Orson Welles, mais son Don Quichotte, qui a été quoi, complété par Jesus Franco?
C'est vraiment bizarre, hein, le parcours de Don Quichotte. Il a essayé de le faire à comme deux, trois... Non, je dis deux, trois, même sûrement plus que ça. Là. Il me semble que c'était récurrent. À chaque fois, il finissait un film.
Ben, c'est un projet maudit pour beaucoup de réalisateurs, en fait. Là.
Ouais.
C'est vraiment une grosse histoire dans le cinéma, là.
Exactement, exactement. Puis d'ailleurs, Terry Gilliam, hein, il se réessaye hein, à faire un Don Quichotte encore. Mais je veux pas dire n'importe quoi, Paul, en fait, par rapport au Don Quichotte précisément. Ça, je connais pas énormément l'anecdote, mais ouais, je sais qu'à un moment donné, il y a Jesus Franco qui est comme repris des affaires. Puis il y a eu plein de trucs aussi. Comme Orson Welles, il y a eu plein de projets qui ont jamais été complétés. Il y a eu son fameux Moby Dick qui a des scènes de tournée. Ça a été repris entre les mains de John Huston à un moment donné. Les deux hommes étaient très proches, hein. Bon, c'est une espèce de deux bêtes sacrées du cinéma, là aussi, là, une espèce d'enfant terrible. Il y a plusieurs projets comme ça, maudits, si bien qu'on dirait que j'ai un peu perdu le fil, je t'avoue.
Fait okay. L'histoire de non, c'est ça, le vendredi 11 avril à 8h30, ça, le Don Quichotte a été présenté, puis on nous annonce Orson Welles en 54 et Jesus Franco en 92, donc un film de 116 minutes. En tout cas, je serais curieux de savoir un peu l'histoire derrière ça.
Ouais.
Sinon, il y a hommage à Alain Resnais aussi à la Cinémathèque.
Ouais. L'année dernière, Marianne Bad en 35 mm, là, je pense que ça vaut la peine. Là.
Ouais, ça c'est le dimanche 13 avril à 17h. La veille, le samedi 12 avril, Hiroshima Mon Amour en 35 mm.
Puis pour finir, juste avec Wells, si je peux juste me permettre, il y a aussi F4 Fake juste avant Hiroshima Mon Amour. Ça c'est le dernier long métrage complété d'Orson Welles. C'est un faux documentaire, donc Rémi, pour peut-être.
Ouais, c'était comme mon devoir d'aller voir ça. Là.
Ouais. Mais c'est ça, fait que c'est ça. Puis ça se termine en fait, la rétrospective Orson Welles se termine pas mal. Avec Le Vérité Mensonge et le Don Quichotte là, la journée d'après. Ça, c'est vraiment la fin de semaine du 12-13 avril. Donc, ça finit vraiment bientôt, là, la rétrospective intégrale de l'œuvre de Welles. Et dans la foulée, en fait, on prend une rétrospective d'Alain Resnais ben, pour souligner, évidemment, son décès.
Oui, et moi, un film que j'ai jamais vu, mais j'ai beaucoup entendu parler, justement, de Resnais, c'est Smoking, No Smoking. C'est deux films qui partent d'un même prologue et ils vont jouer samedi le 10 mai et dimanche le 11 mai. Ça a l'air vraiment intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez souligner à part ça?
Mais il y a toujours plusieurs films là, qui se regardent sur grand écran, genre... en fait, le voir en DVD, ça brise toute la magie. J'ai vu qu'il y a The Third Man qui va être présenté, là, encore dans la rétrospective... La rétrospective Orson Welles. Orson Welles jouait là-dedans, en fait. Je ne l'ai pas vu, de Tolman.
Ah oui, OK. Ça, c'est un super film. Il y a des séquences géniales. Il y a des séquences, entre autres, à la fin, c'est pas un punch, mais ça se passe tout dans des souterrains, en fait, là, dans des espèces de tunnels. Puis c'est l'éclairage extrêmement... C'est vraiment... Tu sais, c'est film noir, mais c'est hyper contrasté, vraiment trippant. Et oui, en fait, Orson Welles joue dans le film, mais il ne faut vraiment pas en dire plus parce que... C'est très intéressant. C'est très, très, très intéressant son rôle dans The Third Man. Voilà.
Et aussi la fin de semaine du... Non, c'est pas la fin de semaine, c'est en semaine. 28 mai et 29 mai, c'est un mercredi et jeudi. C'est la présentation du documentaire Los Angeles Plays Itself de Tom Anderson. Par contre, ce que je trouve vraiment dommage, puis ça, je comprends pas le choix de la cinémathèque, mais il présente en deux parties, alors que c'est un film d'un peu moins de 3 heures. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de mettre un documentaire sur 2 jours comme ça? Ce film-là, je ne l'ai pas vu, mais c'est en gros, c'est un professeur de cinéma, Tom Anderson, qui a décidé de faire une espèce d'essai documentaire sur la manière que Los Angeles est représentée au cinéma. Donc, il a vraiment pris son essai un peu visuel, là, des centaines et des centaines de films, des séquences, au fil des années, quand c'est passé. Et évidemment, à cause de tous les droits d'auteur qui l'en coûteraient, ce film-là ne peut pas être diffusé commercialement. Donc, je crois qu'il y a une version qui roule sur le web, qui est dans le fond un statut légal un peu gris, parce que lui, il veut pas le vendre, puis il pourrait pas le vendre anyway. Et il peut jouer comme dans le cadre dans des cinémathèques, j'imagine, parce que c'est à but non lucratif, je sais pas trop. Donc, une chance assez rare de voir ce film-là. Et aussi, il y a quelques films, il y a comme une rétrospective de films polonais. Entre autres, je vois ici, il y a A Short Film About Killing, la version longue de Kielowski.
Un vraiment superbe film. Ça, c'est la version allongée, en fait, de son, décalogue, je sais plus combien, quel numéro, là. Mais Short Film About Killing, il est vraiment trippant au niveau de la direction photo, là. C'est un peu poseur, peut-être, là, selon certains, mais il y a quand même vraiment, vraiment des trucs ingénieux au niveau de la direction photo. Est-ce qu'il y a aussi Short Film About Love? Parce que moi, je préfère de loin Short Film About Love, je t'avoue.
Non, je ne l'ai pas vu.
Il est pas là, non.
Okay. Peut-être en juin, j'imagine, là, parce que celui-là, il joue le samedi 31 mai. Donc, peut-être qu'on va attendre nos prochains catalogues de la Cinémathèque. Donc, pour tout le reste, ça se retrouve à la cinémathèque.qc.ca. Sinon, qu'est-ce qui sort en DVD, Rémi, ce mardi, le 1er avril?
Pascal vient d'en parler, mais Act of Killing, le DVD sort. Ensuite de ça, il y a Anchorman 2, en fait, la première version, parce qu'on a parlé aussi qu'il y avait une deuxième version qui serait sur le point de sortir. Donc, la première version d'Anchorman 2, ça s'en vient confusing. Sinon, Diogo Star du côté du Québec qui sort en DVD ce mardi.
Ouais, un très beau film. Hein? Moi, je vous le conseille. Un des très bons films de l'année. Et en salle, Pascal, qu'est-ce que
ça? On a du contenu tout frais, tout chaud québécois. On a, La Garde de Sylvain Chambeau avec Paul Doucet. Je le note, là. On verra.
Ce film-là, est-ce que vous n'avez entendu parler?
Ben, pas tant. C'est ça qui est étonnant, en fait, parce que Sylvain Chambeau, c'est quand même un réalisateur qui...
C'est des gros films, là.
Ouais, c'est un des commerciaux. C'est un de ceux qui...
Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Je me rappelle pas, parce que...
Il a fait Pichet entre ciel et terre.
Ah!
Mais il a fait beaucoup de films aussi, en fait, très mineurs, là, genre... French Kiss, ça c'était lui. Pour Toujours les Canadiens, c'est vraiment des films qui n'ont pas fait beaucoup au box-office, mais c'est des films très. C'est des films à tendance commerciaux, mais qui font pas d'argent finalement. Là. Son gros succès, ça a été Pichet en fait. Parce que les autres ont été des flops. Là.
Moi, j'avais quand même aimé ça, Pichet en plus. C'est pas comme un grand film, mais.
Mais c'est son gros truc, là, par exemple. Là.
Je trouvais que c'était divertissant. Bon, donc La Garde, OK, son nouveau film.
Oui, donc La Garde avec Paul Doucet. Il y a le documentaire de Denis Côté, Que ta joie demeure, qui a l'air un peu d'avoir beaucoup d'affinité avec le bestiaire, ne serait-ce que sa façon de concevoir le cinéma, le documentaire, parlons-nous vraiment d'un documentaire ou plutôt d'un film expérimental. Encore une fois, un court film, hein, je pense que c'est à peu près les mêmes eaux que Bestiaire, c'est 1h10, probablement très contemplatif. Là, on est vraiment dans une usine, en fait, carrément, là, ce que j'ai cru comprendre. Là. Puis c'est comme on filme, en fait, les usines. Mais ça risque d'être assez méditatif comme projet. Et méditatif aussi par rapport à ce qu'est un film et ce qu'est le cinéma. Ce que Bessières faisait très bien, en fait. Moi, j'avais beaucoup aimé, en fait, Bessières. Je me suis surpris à beaucoup aimer Bessières, en fait.
Et d'ailleurs, ça va sortir simultanément aussi sur le site de l'Excentrice. La billetterie en ligne. Là. Ben, pas la billetterie en ligne, mais le cinéma en ligne. Donc, pour ceux qui ont le goût de louer chez eux, ils peuvent le faire en même temps que la sortie en salle.
Oui, c'est une grosse sortie hein, pour les documentaires. En fait, il y a aussi, c'est celui que je viens de nommer là, il y a le film Jodorowsky's Dune de Frank Pavic.
Ouais.
On en a parlé un peu plus tôt, le documentaire sur le projet est-ce qu'on peut dire dans ce cas-ci un projet maudit ou juste un projet qui pouvait pas se qui se pouvait pas.
C'était trop mégalomane, ça. Ouais, c'est ça. Trop mégalomane.
Ben, est-ce que vous saviez, j'en ai un peu entendu parler du film, et en fait, Jodorowsky est allé chercher en fait le BDiste Moebius.
Ouais, Moebius, ouais, ok, ouais.
Et ils ont fait ensemble une espèce de bible, ok, de production qui c'était 3000 storyboards.
Wow.
Et cette bible-là a beaucoup circulé à Hollywood pendant des dizaines d'années et a influencé des films aussi récents que Prometheus. C'est une espèce de gros projet. Vraiment, là, c'était comme un truc de fou. En fait, c'est qu'ils sont allés très loin dans la pré-production. Et c'était parce que son film précédent, que c'était El Topo, avait fait vraiment un gros succès en Europe. Donc, c'était un producteur français qui était allé le chercher pour dire, tu sais, fais ce que tu veux, je donne une carte blanche, peu importe. Il y avait beaucoup de budget.
Ben, puis Giger aussi, en fait, le designer, Asher Giger, qui avait designé tous les sets pour ça, les bases, ben, les vaisseaux, puis tout. Puis c'est des trucs qui sont revenus dans Alien par après, en fait. Ils ont réutilisé vraiment des designs qu'ils avaient fait pour le film de Jodorowsky. Mais ça a été, entre autres, Dali aussi qui a bouffé le budget parce qu'il fallait qu'il paye un salaire astronomique à chaque jour de tournage, là. Fait que Jodorowsky est en train de prévoir de tourner toutes les scènes de Dali en 2-3 jours. Soundtrack de Pink Floyd, ça avait juste pas de bon sens, ce projet-là.
Ouais. Mais c'est fou de voir à quel point ça a de l'influence. C'est sûrement le film qui n'existe pas qui a eu le plus d'influence, en fond. Ouais. C'est quand même drôle à dire.
Ben, c'est ça, ben, c'est donc d'où l'intérêt du documentaire, au fait.
Ouais.
Fait que ça sort vendredi. Et finalement aussi, encore une fois, un monstre sacré du documentaire, Errol Morris, un des plus grands, là, je pense que maintenant c'est assez consacré,
ouais.
Qui nous sort en fait son retour sur, ça s'appelle The Unknown Known, sur Donald Rumsfeld. Mais on sait avec Errol Morris que ça va être beaucoup plus qu'un simple portrait gentil, léché de Rumsfeld. Donc ça risque d'être assez intéressant, merci. Donc voilà pour les sorties en salle.
Parfait. Et suggestion sortie la semaine, ben on parlait de la Cinémathèque ce samedi 5 avril à 17h. C'est Rosetta des frères Dardenne.
Ah ouais, nice.
Donc un de ceux que j'ai pas vu, alors peut-être que je
vais. Palme d'or en 99, ça.
Rien de moins.
Rien de moins.
Et on va aller écouter la bande-annonce de La Garde de Sylvain Archambault. C'était notre point de vue. Mon nom est Paul Landriot, j'étais avec mes collègues.
Rémi Frégette.
Et Pascal Leplante.
Pas la première fois?
Non. Elle aurait pu vous amener au criminel, votre ex-conjointe, puis elle l'a pas fait. S'il vous plaît, respectez l'interdiction de contact. Puis attendez que votre garçon soit majeur.
Je fais juste le voir.
Maintenant, ça va être impossible d'obtenir quoi que ce soit. Attendez 2 ou 3 ans. Et à ce moment-là, faites une autre demande de révision.
Hey, t'es pas tanné de te faire arrêter par les bœufs, toi?
On est là pour prendre notre temps.
Tu vas pas super bien, là, je pense. C'est pas normal d'enlever son kid. On s'en va où?
On s'en va à la chasse.
Tente-tu d'essayer?